Trois ans plus tard. Coalescence. Le temps passe et pense. La vie grouille et débrouille. Les braises incandescentes se consument doucement sous le tas épais de cendres froides et grises. Et puis, un jour, il y a un petit souffle, quelques brindilles, et le feu repart. Le feu est reparti pour Paul. Manon s'est laissée embarquer dans son sillage, sans même chercher à exercer une quelconque résistance. Comme une évidence. La réciproque est aussi vraie. Elle m'a un jour parlé d'âme-sœur. Ils se sont rencontrés à l'hôpital, dans la salle d'attente du service où était hospitalisée Lulu, et ne se sont plus vraiment quittés depuis. L'attirance a été immédiate. Ils se sont reconnus tout de suite, dès le premier instant. Parfois, on cherche une fréquence sur la radio, on croit reconnaître le programme, mais ça grésille, ça capte mal. Entre eux, le son était clair, d'emblée. Et puis ce manque cruel, dès que la vie les éloignait, inévitablement. Paul, lui aussi, m'a parlé d'âme-sœur. Il ressentait pour la première fois la force de cesser de regarder sa chère comète partie trop tôt en apesanteur. En même temps, il avait peur. Peur de la jeunesse de Manon. Peur de l'abîmer. Peur de se détourner de Pauline. Mais il n'a rien pu faire. Lutter le rendait trop malheureux. Il a capitulé, déposé les armes à ses pieds, et depuis, il a le sentiment d'avoir retrouvé l'énergie de ses 20 ans. Manon aussi a peur de construire une vie avec lui. Plus de 30 ans d'écart, il y a un jour où les déterminations biologiques de l'espérance de vie rattraperont leur histoire d'amour. Alors elle n'y pense pas. Ils ont déposé les armes ensemble et sont repartis avec les fleurs qu'il y avait au bout des fusils. Ils évitent simplement de prendre l'ascenseur. Ils s'échangent leurs assiettes au milieu du repas quand nous allons au restaurant et récidivent au dessert. Paul a limité ses déplacements tellement il ne supporte pas d'être loin d'elle. Et pourtant, l'oxygène circule entre eux. Aucun n'étouffe l'autre. Âme sœur. Je suis heureuse pour elle, pour lui. Je me dis parfois qu'ils ne se seraient peut-être pas rencontrés si Lulu n'avait pas été dans ce service. Hasard ou coïncidence? Finalement, c'est le résultat qui compte. Le résultat est joli. Lulu, si tu savais. Je suis bête, tu sais. Le feu est également reparti pour Jérôme. La brindille s'appelle Caroline. Il m'a avoué un jour que lors de leur première rencontre, il s'était demandé s'il avait bien fait de la prendre comme remplaçante, tellement elle paraissait maladroite et incertaine. Et puis, il la trouvait touchante. Il avait l'impression de l'accompagner dans son cheminement, dans sa quête de confiance en soi. Son instinct de sauveur qu'il ne quitte pas. Je crois même qu'il aurait du mal à admettre que c'est peut-être bien elle qui lui est venue en aide. La différence avec Irène, c'est que Caroline va bien. Elle est équilibrée, gauche mais équilibrée. Elle se tient droite face à la vie. Il faut l'être, et courageuse aussi, pour parvenir à préserver une petite existence en la maintenant du bout de ses doigts dans le ventre de sa mère. Et cette façon dont elle s'y est prise pour s'installer progressivement dans la vie de Jérôme, en commençant tout doucement par les gratouilles dans ses jambes pour, peu à peu, lui devenir indispensable. Caroline est le contraire d'Irène. Elle est un peu brouillon, un peu désorganisée. Elle néglige les choses qui ne lui semblent pas importantes et la propreté de sa salle à manger ou l'alignement de ses pulls dans l'armoire lui semble moins vitaux que de passer du temps avec ses patients, ses amis, l'homme qui partage sa vie. Lui-même est arrivé à un tel moment de doute dans la sienne qu'il a été malgré tout une béquille fort efficace. Une béquille en fauteuil roulant qu'elle a poussée en s'appuyant dessus. La vie est parfois bizarre. Mais c'est peut-être mon feu à moi qui est reparti le plus fort. Il y a un peu plus de 3 ans, je croyais avoir éteint les lumières en partant, comme dans la petite maison de Bretagne, sans savoir si j'y reviendrais. Il y a un peu plus de 3 ans, je pensais avoir définitivement quitté le navire, condamné à surnager en eau froide. Et puis, j'ai réussi à remonter dedans pour poursuivre le voyage. Romain, sur le bateau, m'a tendu la main. A séché mes vêtements au soleil pour que je n'aie plus froid, m'a montré l'horizon en me donnant envie d'y aller voir. Il a ouvert les voiles avec ses balades en montagne. Le bateau, à la poursuite de projets, a pris de la vitesse. Depuis le départ, il dit qu'il n'y est pour rien, mais je sais bien que sans lui, je n'aurais pas fait ce chemin. J'aurais peut-être trouvé d'autres mains, et d'autres mains, il y en a eu qui sont encore là. Mais son amour a compté. Il compte toujours. Je me suis installée dans sa petite maison. Nous y sommes bien. Charlotte m'a adoptée avec la simplicité d'un enfant de son âge. Il faut dire que je connaissais plutôt bien tous les jeux auxquels elle jouait. Les Legos n'ont plus de secret pour moi, au propre comme au figuré. Je suis comme une gamine quand il est question d'organiser sa maison de poupées, et je suis toujours aussi incollable aux mémories. Je l'ai peut-être apprivoisée en me mettant à son diapason, comme une grande sœur. Nous nous prenons dans les bras souvent, longtemps, tout fort. Parce qu'elle a une maman qui lui manque, parce que j'ai un enfant qui me manque. On rattrape la tendresse perdue. On comble les vides, on colmate. On calfeutre pour empêcher les courants d'air que leur absence génère. Nous pouvons passer une heure entière collées l'une à l'autre. Je sens sa petite main me caresser le dos et je fouille mon nez dans son cou. Comme ces bébés qui naissent avec le même réflexe vers le sein de leur maman. Fouissement. Instinct de survie. Sans ça, il meurt. Pareil. Parfois, Romain rentre de l'hôpital et nous aperçoit ainsi sur le canapé. Il sourit et nous dit « Vous fouissez encore ?» Nous lui ouvrons les bras et nous fouissons à trois. C'est encore meilleur. J'ai finalement accepté l'aide que me proposait Paul pour reprendre une formation et quitter ce poste de caissière qui m'était devenu insupportable. Je n'ai pas encore atteint le niveau de chercheur en biologie moléculaire, mais le BTS que j'ai obtenu il y a un mois m'a permis de décrocher un poste d'assistante pour septembre. Paul m'a dit que j'étais capable de gravir ensuite les échelons progressivement pour réaliser mes rêves. Mon père est mort 6 mois après Lulu, un cancer des poumons. Je ne l'ai su qu'après. Ma mère n'a pas eu la force de m'en aviser. Une loque humaine. Rongée par l'alcool et l'errance d'une vie sans accomplissement. J'ai donc hérité de quelques biens matériels et d'une petite barque à l'abandon au beau milieu de l'océan, heurtée par les vagues trop fortes et apeurée par les requins qui rôdaient tout autour. Je l'ai remorquée comme j'ai pu et nous avons réussi à rejoindre les côtes. J'ai vendu la maison, de toute façon difficile à garder. Avec l'argent, je lui ai payé une cure dans une clinique réputée pour qu'elle se désintoxique et reprenne pied. Elle a remonté la pente doucement. Aujourd'hui, elle est installée dans un petit appartement où je crois qu'elle est bien. Le contact se renoue progressivement entre elle et moi. Il faut du temps pour ce genre de Lego aussi. Mais elle sourit à nouveau. C'est discret, ça tire un peu sur des joues devenues trop rigides à cause du mépris de cet homme froid et dur qu'était mon père. Mais la peau est élastique, elle va s'habituer. Nos émotions aussi sont élastiques. Elles s'habitueront. Ainsi, il y eut un avant. Un kiné qui se remettait doucement d'une rupture d'amour assassine. Il y avait un médecin de campagne qui venait de vivre une perte encore plus définitive. Il y avait son père qui se remémorait ce qu'il avait vécu 30 ans plus tôt sans pouvoir s'en détacher. Il y avait ma meilleure amie qui ne se posait pas de questions sur l'avenir. Il y avait une jeune remplaçante en médecine qui pensait ne rien valoir. Il y avait une caissière qui se dépatouillait comme elle le pouvait dans sa vie de mère célibataire. Et puis, il y avait un petit garçon plein de vie qui la croquait à pleines dents. Il y a aujourd'hui. Romain qui m'a remis le pied à l'étrier et qui en a profité pour grimper avec moi sur le cheval. Il y a sa petite fille qui s'accroche à notre cou pour galoper avec nous. Il y a Jérôme, qui a retrouvé toutes ses capacités physiques malgré une jambe légèrement boiteuse. Il ne pourra plus jamais courir sur la plage, mais il a appris à enlever quelques couches d'épluchures quand les peines et les soucis pèsent un peu trop sur ses épaules. Il se laisse davantage porter par la vie depuis que Caroline s'y est installée. Cette dernière a développé son sens du diagnostic pour le plus grand bien de la sécurité sociale et aiguisé sa confiance en elle, raffermissant au passage sa poignée de main. Il y a Paul, qui pleure toujours en épluchant les oignons, mais qui regarde enfin devant lui. Et face à lui, il y a Manon, qui se pose désormais des questions sérieuses sur l'avenir. Elle a refermé son pot de confiture sur un vieux bourdon qui lui faisait des bzzz dans le cœur. Il y a une ancienne caissière qui touche doucement du doigt son rêve de devenir chercheur en biologie moléculaire. Elle a colmaté les brèches, en haut, en bas, grâce à une sage-femme médiévale qui l'a accompagnée sur un bout de chemin pour la recentrer dans son corps de femme, et grâce à un homme sur qui la testostérone a un effet prince charmant. Il n'y a plus Lulu, le petit garçon qui croquait la vie à pleines dents, parce que c'est la mort qui l'a croqué. Dans une autre dimension, Lulu. Il n'est plus là pour voir tout cela, pour le vivre avec nous. Mais je sais qu'il le partage bien plus qu'on ne pense. Peut-être même qu'il est un peu aux manettes. Sinon, comment expliquer que nous soyons tombées enceintes, toutes les trois, quasiment le même mois? Hasard ou coïncidence? Bref, c'est le résultat qui compte. Joli résultat. Entre avant et aujourd'hui, il y a eu cette rencontre fortuite, à la caisse d'un supermarché, autour d'une histoire de pizza et de bière. Il aurait pu choisir une autre caisse, j'aurais pu ne pas travailler ce jour-là. J'aurais pu sourire et ne pas laisser une larme couler sur ma joue. Mais j'étais là, avec cette larme, et il a choisi ma caisse, peut-être pour la larme. Il aurait aussi pu ne pas revenir la semaine suivante, ne pas m'inviter à déjeuner. Nous aurions pu ne pas partir en Bretagne, ne pas tomber en affection les uns pour les autres. Nous aurions pu ne pas avoir cet accident. Mais tout cela est arrivé, et nous avons dû faire avec. Romain avait raison. On s'en sort parce qu'on n'a pas le choix. La vie suit son cours, et nous ne sommes que quelques petits bouts de bois qui flottent au gré des courants. Nous avons tous été pris dans les remous des rapides, chavirés, percutés, noyés par moments. Mais nous flottons toujours. Et puis, parfois, dans certains petits coins de rivière, protégés par une grosse pierre, tourbillonnent ensemble les brindilles qui ont subi les rapides et qui se retrouvent pour souffler, formant un petit conglomérat de survivants malgré les courants puissants. La mort de Lulu, c'est le barrage qui s'est rompu, qui a tout emporté sur son passage. Mais nous ne nous sommes pas noyés, parce que nous nous sommes tenus les uns aux autres. Les plus solides ont soutenu les plus faibles. Et quand on résiste à un tel déferlement, on se sent plus fort. Plus sensible aussi, paradoxalement. Ça fait mal, mais ça tient. On sait résister, ça tient. Jusqu'à ce qu'on puisse se mettre à l'abri du petit coin protégé derrière la grosse pierre, pour reprendre de l'air. Avant les nouveaux remous. Parce que c'est ça la vie. La vraie vie. C'est l'été. Nous sommes partis tous les six en Bretagne, dans la maison de Paul. Charlotte est restée en vacances chez ses grands-parents maternels. Nous ne sommes pas six, nous sommes neuf. Trois petits miracles poussent trois nombrils de femmes vers l'avant. Tous les soirs, je vais coucher le soleil à l'horizon. J'y retrouve Lulu, qui flotte au-dessus de la mer. Et quand ils sont couchés tous les deux, je rentre. Une douce mélancolie en bandoulière, qui ne me quitte jamais vraiment, mais que j'ai désormais apprivoisée. Pas de lune dans le ciel. Juste quelques rares nuages qui se réchauffent au halo de la ville. Alors, ce soir, nous avons sorti le bateau et les couvertures. Nous avons dansé balou sur le pont, parce qu'au bout de quelques mois, il est finalement sorti d'hibernation. Il était amaigri, mais nous l'avons bien nourri, et il a retrouvé sa bonne humeur. Nous nous sommes arrêtés dans la nuit noire, au même endroit que la première fois avec Jérôme. Quand il a éteint les lumières, je n'ai pas eu d'appréhension. Pas cette fois-ci. Moby Dick peut aller se rhabiller. Avec ce que m'a fait voir la vie, c'est pas une petite baleine de rien du tout qui va m'effrayer. Même pas peur. Nous sommes tous installés par terre, sur le pont, quelques couvertures soigneusement posées sur nous, et trois petites collines qui font des bosses comme les dunes du désert. Le ciel est splendide. C'est la nuit du 10 août. Et nous nous préparons à observer les Perséides, cette pluie magique d'étoiles filantes, qui ne correspond en réalité qu'à une croisée avec des débris de comètes aussi gros que des grains de sable. Une telle lumière dans le ciel, grâce à quelques particules. Je me souviens de ce que m'avait dit Romain un jour à propos des grains de sable du bord de mer, ceux avec lesquels on construit les plus beaux châteaux. Cette nuit, nous poursuivons la construction de notre forteresse à nous. Elle est solide, construite sur de belles fondations. Et ses grains de sable sont assemblés avec un ciment indestructible. Un sentiment d'attachement solide. Une coalescence. Nous regardons les étoiles en sachant que certaines d'entre elles brillent au-delà des autres, parce qu'il y a un peu plus que du gaz et de la matière. Il y a peut-être bien quelques âmes qui s'y sont mises en orbite, qui leur donnent une autre lumière. Je pense souvent à Lulu. J'y pense chaque jour, à chaque aube et à chaque crépuscule. Il est dans un souffle de vent, dans un rayon de soleil, dans la trajectoire d'un papillon. Il est partout où je suis. J'y pense parfois avec joie, parfois le cœur serré. Il est en filigrane entre mes pensées et le reste du monde, pour toujours. Au fond de moi, tout au fond, bien au chaud, quoi qu'il arrive. Comme une femme enceinte qui porte son petit, quand elle est encore seule à le savoir installer là, quand son ventre ne s'est pas encore arrondi pour annoncer le miracle prochain à la face du monde. Quand elle savoure cette intimité secrète que rien ne peut venir gâcher, même pas les soucis tout autour, puisqu'elle a la vie en elle, puisqu'elle a l'amour en elle. Je l'ai porté 9 mois pour lui construire un avenir, et il est revenu en moi pour finir de structurer ma propre vie. Abîmée, certes, éprouvante parfois, mais savoureuse. Lulu est passée dans l'existence, comme le souffle d'un ange, et reste désormais dans la mémoire de ceux qui l'a touché de ses ailes légères. Mes bras se sont relevés doucement, et ils portent mon destin vers ce miracle qui m'appartient, celui de survivre, et puis même de vivre, et d'en être heureuse. D'en être heureuse. Car Lulu est partout où je suis.